L'Orient Presse, Kamel Jaider.
Bonjour et bienvenue sur RFI pour cette nouvelle édition d'Orient Presse. Comme chaque samedi, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine au Proche et au Moyen-Orient en compagnie d'une consoeur et de deux confrères. Agnès Rotivel du journal La Croix, Gideon Koutz de la télévision israélienne et Samir Touheni du journal El Nahar.
Orient Presse sur RFI.
Bonjour et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. C'est encore l'Iran qui fait la une de l'actualité cette semaine. Les représentants des six grandes puissances en charge du dossier nucléaire iranien se sont donc réunis ce jeudi à Genève avec leur homologue de Téhéran. Des discussions cruciales après 14 mois, je le rappelle, d'interruption. C'était un test important sur les intentions de l'Iran concernant son programme nucléaire. Gideon Koutz, je commence par vous puisque vous avez suivi cette rencontre de Genève pour la télévision israélienne. Comment analysez-vous le résultat de ces dernières discussions? C'est un succès pour la diplomatie?
C'est un succès, mais est-ce que c'est un succès à long terme? Pour la diplomatie en général, oui, parce qu'on ne parle plus d'une échéance, on ne parle plus de sanctions, on ne parle plus d'un ultimatum. Il y a une autre rencontre qui va se tenir avant la fin du mois, donc au moins c'est cela ce qu'on nous a dit. Et puis il y a quelques résultats immédiats, et il faut voir encore comment ils seront donc réalisés. Mais si c'est une victoire pour la diplomatie, oui, pour la diplomatie américaine peut-être, parce que ça démontre quand même la justesse de cette diplomatie à l'ère immédiate. Mais tout cela est très fragile, parce que si dans un mois il s'avère que la diplomatie a menti, que la diplomatie ce n'est pas la bonne solution, et donc la victoire sera une victoire à la Pyrrhus. Et c'est la raison pour laquelle je pense le président Obama, dans son communiqué jeudi soir, et tout de suite après la fin de cette première réunion, de ce résultat, a tenu à avertir que les États-Unis restent sur la même logique, que l'Iran doit admettre assez rapidement un comportement qu'on lui demande.
Oui, le président américain qui a demandé des mesures concrètes de la part des Iraniens, tout en soulignant, je le cite, des résultats constructifs. Agnès Rotivel, c'est votre sentiment sur ces résultats?
Écoutez, moi je crois que c'est effectivement un premier pas en matière de diplomatie, et c'est important parce qu'il fallait reprendre contact et ça n'était pas facile compte tenu à la fois des 8 ans du président Bush qui avait complètement fermé toute négociation et contact avec les Iraniens. Les proches de M. Obama le disaient, il fallait reprendre, quand Obama est arrivé à la Maison Blanche en janvier 2009, il fallait reprendre contact avec les Iraniens, et c'était difficile parce qu'il y avait eu vraiment un gel des négociations et des contacts. Et reprendre contact avec les Iraniens au plus haut niveau, c'est-à-dire au plus proche de M. Khamenei. Donc en fait, c'est cette preuve qu'au moins tout le monde est autour de la table. Maintenant, évidemment, ça ne donne pas de résultats rapides. Et de toute façon, il faut savoir que ce sont des négociations qui prennent du temps.
Il faut tout de même rappeler quels ont été les résultats concrets de ce jeudi.
Donc l'ouverture du site de com aux inspecteurs de l'AIEA, c'est une première chose. Vous avez dit que le directeur de l'AIEA part demain, je crois, ou ce soir.
Dans quelques jours, il est attendu à Téhéran.
Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'accord pour l'enrichissement par la Russie ou la France, ou la Russie et la France, de l'uranium qui est utilisé par un réacteur de recherche médicale à Téhéran. Donc cet accord pour l'enrichissement était déjà dans l'air depuis très longtemps, mais maintenant il y a un accord là-dessus. Maintenant il faut voir les détails, ça c'est un petit peu compliqué, ça, je pense que ça va sortir dans quelques jours. Voilà, maintenant le problème de fond c'est le gel de l'enrichissement de l'uranium, mais complet quoi. Donc ça, on n'en est pas là.
On va y venir. Samir Touheni, une première réaction à ce résultat de Genève.
Je pense que c'est une réunion positive parce qu'il y a déjà une ouverture de négociations. Et nous avons assisté aussi à une réunion bilatérale entre les Américains et les Iraniens, entre Burns et Jalili. Donc nous pouvons dire jusqu'à maintenant que cette réunion est positive et il y a une ouverture, ce qu'il n'y avait pas depuis 14 mois. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Je pense que la deuxième réunion qui se tiendra fin octobre nous donnera une image beaucoup plus exacte, beaucoup plus réelle de la teneur des négociations et du futur de ces relations entre les Iraniens et les Six.
Enfin... Oui, alors il faut dire qu'avant cette rencontre de Genève, nous avons assisté à plusieurs jours de rebondissements et d'échanges plutôt vifs entre les deux camps. Alors côté occidental, une tonalité, rappelez-vous, très sévère, et notamment le président français qui évoquait, lui, la perspective de sanctions massives, avait-il dit, tandis que du côté iranien, on annonçait l'existence d'un second site d'enrichissement de l'uranium, tout en procédant, rappelez-vous, à des essais de tirs de missiles de longue portée. Alors, les choses paraissaient plutôt mal engagées en début de semaine, Gideon Kouts.
Oui, mais il était mal engagé depuis un an déjà. Rappelons-nous qu'il y a eu déjà une telle réunion à Genève. Les Américains étaient en tant qu'observateurs, donc il n'y avait pas eu cette négociation directe, cette rencontre de 45 minutes entre Burns et Saïd Jalili. Mais je pense, ma confrère l'a accusé, disons, un mot assez découvert, le président Bush, pour tout ce qui s'est passé pendant cette dernière année. Bon, il faut peut-être chercher de l'autre côté, parce que ce sont les Iraniens qui n'ont pas donné de réponses satisfaisantes aux mêmes propositions qui leur ont été soumises par les Européens et par les autres six. C'est la raison pour laquelle le président Sarkozy, et d'ailleurs aussi le dirigeant allemand, était assez sceptique à la veille de cette réunion. D'ailleurs, il le reste un peu. Et de ce point de vue, donc, il ne faut quand même pas chercher les coupables ailleurs. Le problème était le manque de clarté côté iranien et la volonté de gagner du temps. Et ce manque de clarté, d'ailleurs, existe maintenant aussi. C'est la raison pour laquelle le président Obama a tenu à dire ce qu'il a dit. Et parce que la négociation avec l'Iran s'effectue dans un cadre global, comme les Iraniens ont demandé. On va parler aussi d'autres sujets, le désarmement mondial, la crise économique et même les problèmes de drogue. Donc vous voyez, ou bien cette enveloppe est destinée un peu à l'usage interne en Iran pour présenter quand même cette négociation comme victoire pour l'Iran, ou bien il s'agit d'une continuation de cette volonté délibérée de gagner du temps. Mais là, on verra.
Alors, je voulais dire quand même, et c'est important aussi de le souligner, c'est que l'administration Bush avait complètement coupé les relations avec les dirigeants iraniens. Ce qui fait qu'on ne peut pas évidemment négocier. On ne peut pas négocier. On ne peut pas. On parle des 8 dernières années.
On laisse finir.
On ne peut pas négocier avec quelqu'un quand on n'a effectivement absolument aucun contact. Donc c'est vrai qu'on sait la capacité de l'Iran à faire traîner les choses, et ça, il n'y a aucun doute, tout le monde le sait, mais il est évident qu'il ne peut pas y avoir de négociation s'il n'y a pas de prise de contact. Or, ce qu'il y a d'évidemment positif pour les Occidentaux comme pour les Iraniens, c'est qu'ils soient assis à la même table. Et les négociations valent toujours mieux. Je reprends la chronique de l'ancien ambassadeur de France, M. Nicoulot, qui est paru dans Le Monde. Il explique qu'il ne peut pas être dans la confrontation en permanence si on veut obtenir quelque chose de l'autre. Donc, il est clair que l'Iran doit faire des concessions, mais les Occidentaux doivent aussi reprendre contact avec ces gens-là.
Voilà. Samir Twini.
Oui, je pense que là, il y a un point important. C'est qu'il y a une ouverture de dialogue. Et l'ouverture de dialogue était demandée par tout le monde. Maintenant, personne ne parle aujourd'hui ni d'une victoire de l'Iran, ni d'une victoire de l'Europe. Nous parlons aujourd'hui d'une ouverture d'un dialogue entre les six et les Iraniens. Suite à cette ouverture de dialogue, des décisions vont être prises. Est-ce que les Iraniens vont jouer la montre ou est-ce que les Iraniens vont répondre aux offres européennes ? Suivant la réponse iranienne, la suite va être déterminée. Ou bien le dialogue continue entre l'Iran et les six, ou bien on va parler avant la fin de l'année, puisque c'est la date butoir, de sanctions de nouveau vis-à-vis de l'Iran.
Alors, on va rentrer un peu dans des choses un peu plus concrètes, puisque c'est la Russie, voire la France, qui pourrait désormais avoir les cartes en main, Moscou et Paris étant pressentis et préférés, dans le cas de la Russie, par les Iraniens, pour devenir le pays tiers chargé d'enrichir totalement l'uranium destiné aux réacteurs nucléaires iraniens. Est-ce une garantie suffisante pour les Occidentaux, Gideon Kouts ?
D'abord, on parle du réacteur de Téhéran. Monsieur Solana, dans sa conférence de presse, a souligné qu'il ne s'agit que de cela, mais c'est un précédent, bien sûr, qui peut préjuger des autres réacteurs. Et il faut dire que Monsieur Jalili a répété les droits de l'Iran de maintenir tous ses réacteurs nucléaires. Donc, déjà, là, il s'agit d'un petit essai, si vous voulez. Si ça marche, tant mieux, mais il faudrait encore que les Iraniens acceptent et que ça se passe aussi au niveau de tous les autres réacteurs, surtout celui de Natanz, là où la centrifuge continue à être produite.
Agnès Rottivel, sur Moscou, voire Paris pressenti, vous en pensez quoi?
Écoutez, il faut voir après ce qui va se passer, mais il est évident que compte tenu des relations avec la France, on a du mal à s'imaginer, malgré les invitations de M. Kouchner à dire la France est d'accord, etc. Compte tenu des très mauvaises relations entre la France et l'Iran, je doute que l'Iran choisisse la France.
Oui, c'est plutôt Moscou qui aime le placer.
Il semblerait voilà, que les relations étant quand même beaucoup plus proches avec Moscou, ce soit Moscou. Mais après tout, pourquoi pas, hein ?
Samir Twani, un mot sur la Russie, la France
Oui, oui. Mais je pense que cette offre qui a été faite hier de donner de l'uranium enrichi à 5% à l'Iran est une offre qui date depuis déjà presque de 2 ans. Donc les Russes ont fait cette offre et les Iraniens l'avaient refusée en ce temps-ci. Aujourd'hui, l'important, je pense, c'est que l'Iran accepte quand même qu'il y ait un contrôle transparent de ces sites par l'AIEA. Et je pense que c'est là la question la plus importante pour les 6.
Orient Presse sur RFI.
Orient Presse sur RFI, nous sommes en compagnie d'Agnès Rottivel du quotidien La Croix, Gideon Koutz de la télévision israélienne et Samir Twani du journal NHA. Alors, on a aussi noté, avant la conférence de Genève, des divergences entre les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Washington avait indiqué que l'Iran ne serait pas menacé de nouvelles sanctions, rappelez-vous, il y a quelques jours, alors que Paris et Londres, et surtout Paris, tenaient un discours plutôt dur. Le ministre français de la Défense, Hervé Morin, estimant même que des sanctions s'imposaient, il l'a dit, depuis Moscou. Agnès Rottivel, sur cette nuance dans les tonalités américaines et européennes.
Oui, c'est assez étonnant de voir à quel point la France est sur une position extrêmement dure envers l'Iran et dans les mots. Je veux dire, c'est pas uniquement dans l'attitude ou dans les faits, c'est dans les mots en fait. Et le président de la République l'a montré aussi à plusieurs reprises dans ses interviews. C'est d'autant plus étonnant qu'en fait on a effectivement un contentieux aussi avec l'Iran concernant la détention de Clotilde Rice. Et on peut penser que ces propos assez violents envers l'Iran n'aideront pas vraiment dans ce dossier. Donc c'est effectivement assez étonnant. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Mais effectivement, les États-Unis sont beaucoup plus... Mais il y a une continuité dans la politique américaine depuis l'arrivée d'Obama, contrairement à ce que peuvent dire certains. C'est qu'il y a effectivement l'idée de la main tendue vers l'Iran. La main tendue passe par des négociations et des rapprochements. On en est là. Et je pense en fait que... contre vents et marées, même si tous les Occidentaux ne suivent pas, les Américains continuent sur cette ligne.
Vous êtes d'accord, Samir Twani ?
Oui, je suis tout à fait d'accord à ce que dit Agnès. Et je pense que la différence entre la position américaine et la position française, c'est que les Américains voient un peu plus loin que le problème nucléaire. Juste ce problème, les Américains veulent avoir avec l'Iran une ouverture politique. Ils ont beaucoup de problèmes en commun à régler. C'est la raison pour laquelle il y a une main tendue américaine vers l'Iran pour essayer de régler ces problèmes.
Gideon Koutz.
Bon, je ne suis pas tellement de cet avis. Je pense d'abord qu'il s'agit de différences de tactique. C'est tout. En plus, la France a déjà une expérience de négociation, ce que l'Amérique ne possède pas, parce qu'elle n'a pas vraiment participé dans la négociation à ce jour. Cette négociation, je le rappelle, elle existe depuis un an déjà. La réunion s'appelait Genève 2. Il y a eu une Genève 1, n'oublions-le pas, et les mêmes propositions étaient sur la table déjà il y a un an. Donc, c'est normal que la France... les autres Européens ont moins d'illusions. Maintenant, la tactique du bon policier et du mauvais policier, ça, il faudrait voir comment ça marche, mais bon, je n'accepte pas que c'est l'Amérique qui veut les dialogues avec l'Iran et que l'Europe ne le veut pas.
Non, mais attendez, il n'est absolument pas question de bon ou de mauvais policier, on n'en est pas là, on n'en est pas à juger qui est le bon et le méchant, c'est pas le sujet.
Non, c'est
le sujet, c'est qu'aux États-Unis, c'est qu'effectivement, il y a une diplomatie américaine. Depuis que Obama est arrivé, le fond de la diplomatie américaine, c'est de dire... On regarde effectivement, je suis d'accord avec M. Twani, c'est qu'on regarde le monde d'une façon globale. Et il n'y a pas uniquement un problème nucléaire avec l'Iran, mais il y a un problème aussi sur l'Irak, il y a un problème avec le Liban, il y a un problème avec beaucoup de pays de la région. Et la politique américaine internationale vise à régler les problèmes de façon globale et non pas un par un.
C'est oui, et peut-être un signe intéressant, cette visite surprise du chef de la diplomatie iranienne aux États-Unis, c'était mercredi soir, c'était, il faut le rappeler, la première visite à ce niveau. nouveau depuis 10 ans. On peut interpréter cela comme le signe de cette nouvelle politique globale des États-Unis, Samir Twini.
Oui, je pense que le ministre des Affaires étrangères n'a pas été à Washington juste pour inspecter les immeubles où se tient la délégation iranienne, mais je pense que le problème est beaucoup plus important. C'est déjà une ouverture assez importante et nous voyons déjà que l'Iran est beaucoup plus modéré sur certaines positions dans la région.
Alors même en Israël, hein, Gideon Koutz, vous allez me le dire, le discours sur la menace iranienne a brusquement cessé cette semaine.
Non, je ne le pense pas vraiment. Et cela dit, Israël n'attend pas beaucoup de ce pourparlers, mais l'accepterait bien sûr avec une surprise agréable si quelque chose en sort. Et il n'y a pas eu de modification des discours. Tout simplement, il y a eu des discours sur d'autres sujets qui étaient beaucoup plus d'actualité. Il y a la question donc de la cassette de Gilad Shalit aujourd'hui. On a parlé, disons, concernant Genève aussi, du problème du rapport Goldstone. Il y avait plusieurs autres sujets. Et ce n'est pas vraiment un changement des discours. Mais pour revenir en un mot à ce qui a été dit jusqu'à maintenant concernant la politique globale des États-Unis, je ne pense pas que la politique de la France est moins globale. Cela dit, les intérêts américains sont différents. La seule différence dans la politique des États-Unis, c'est, comme c'était déjà dit, la différence de la politique du prédécesseur de M. Obama, mais pas la différence des autres pays. Mais là, il ne s'agit, je le répète, il ne s'agit que d'un essai. Toute cette politique globale, on verra ses fruits dans un mois.
Agnès, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, sur Israël, ce qui est étonnant aussi, c'est quand même la différence de discours concernant les hommes politiques. On avait donc le Premier ministre qui harangue en permanence en disant l'Iran est une menace existentielle pour l'État hébreu. Et tout d'un coup, on a Ehud Barak qui dit « Ben non, finalement, l'Iran n'est pas une menace existentielle ». Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de se retrouver dans le discours israélien sur la question iranienne. Tantôt, on a l'impression vraiment que c'est le danger maximum et d'autres, de temps en temps, « Ben non, finalement, on est beaucoup plus fort et ça ne risque rien. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si ces modifications interviennent en fonction aussi des relations qu'ils peuvent avoir avec les États-Unis. En tout cas, on note quand même une certaine différence d'un homme politique à un autre.
Alors, à propos de différence entre les discours des hommes politiques, que vous inspirent les divergences franco-françaises sur le sujet? Bernard Kouchner n'était pas tout à fait sur la même ligne que le président Nicolas Sarkozy, Agnès.
Oui, effectivement, Bernard Kouchner a dit, par exemple, sur les sanctions, il ne pensait pas que les sanctions étaient une bonne chose puisqu'elles affectent particulièrement la population et pas les dirigeants que l'on veut sanctionner. C'est une continuité avec tout ce qu'il a toujours dit et c'est une continuité avec tous ceux qui pensent que les sanctions, de toute façon, ne gênent pas du tout les dirigeants, mais effectivement affectent de plus en plus la population. Et on sait qu'en Iran, la situation économique est difficile et effectivement, elle affecte aussi la population beaucoup plus que les dirigeants.
Samir Twini, sur les divergences internes.
Oui, je suis tout à fait d'accord à ce que a dit Agnès pour une simple raison. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les sanctions affectent la population iranienne. Nous remarquons aujourd'hui que la population iranienne est divisée entre des modernes et des traditionnels. Donc, il ne faut pas aujourd'hui que l'Occident joue le jeu iranien et fasse que cette population aujourd'hui qui est divisée sur des sujets internes se réunifie sur un sujet externe qui est le programme nucléaire iranien. Nous avons remarqué, les Iraniens ont fait les essais lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. Quelle est la raison? Ce n'est pas pour que le monde soit tout de suite contre eux, mais c'est juste pour que le monde ne parle pas de leurs problèmes internes.
Vous voulez dire que la question du nucléaire fait l'unanimité en Iran, c'est ça?
Tous les Iraniens veulent que l'Iran ait du nucléaire. Maintenant, du nucléaire militaire ou du nucléaire civil...
Je parle de nucléaire civil pour l'instant.
Oui, je pense que tous les Iraniens souhaitent que l'Iran se dote de...
Agnès, vous vouliez ajouter?
Moi, je me souviens, au moment de la campagne présidentielle, les candidats avaient une approche très différente sur le nucléaire, et notamment M. Moussavi, qui était de dire, ok, le nucléaire civil, effectivement, on y a droit, mais... on peut avoir une position très différente sur le nucléaire et militaire, et ils n'étaient pas très en faveur pour ça. Et si vous faites un sondage au sein de la population iranienne, il est clair que les gens n'en veulent pas du nucléaire militaire, surtout si ça entraîne des sanctions, parce qu'ils savent que de toute façon,
ils vont en souffrir.
Gideon
Koutz, un mot sur...
Je pense que ma nièce, pendant la campagne, en effet, M. Moussavi et ses conseillers voulaient en effet revenir au temps du président Khatami, qui était, disons, enclin d'accepter les propositions européennes à l'époque. Je veux dire que le discours iranien nucléaire a réunifié peut-être tout le monde il y a 3 ou 4 années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui en Iran. Oui. Maintenant, concernant les sanctions, alors là, je ne vois pas franchement quelles sont les sanctions qui peuvent punir les dirigeants sans punir les pays tout entier.
Alors, à propos d'Israël, deux négociateurs israéliens étaient cette semaine à Washington pour discuter de l'évolution du conflit avec les Palestiniens. Y a-t-il encore, selon vous, une chance pour que les pourparlers israélo-palestiniens reprennent et que la position américaine soit, la position d'Obama, hein, soit entendue par le gouvernement Netanyahou, Gideon Kutz?
Oui, sinon il faut rendre les clés et, voilà, et arrêter la politique. Si on veut que c'est la diplomatie qui réussit, c'est pas la prochaine guerre qui se prépare. Donc il faut croire à cela. Et les chances existent tout à fait. Donc il s'agit uniquement maintenant de quelques atermoiements de politique ou des camps de refus des deux côtés qui se renforcent. Mais bon, ça, ce sera le grand test des dirigeants. Et sinon, ils devront passer cette possibilité à d'autres dirigeants.
Oui, je pense que les négociations sont possibles. Les négociations ne sont pas terminées. Les Américains veulent arriver à une solution, mais les Américains ont échoué et ils n'ont pas pu convaincre leur allié israélien d'aller un peu plus loin dans ces négociations. C'est ça, je pense, le premier échec américain.
Agnès Rotival.
Alors, moi, je ne sais pas si c'est peut-être une question de méthode aussi. Peut-être que la méthode employée n'a pas été la bonne et peut-être qu'il y a un autre moyen. Moi, je voulais noter simplement ce qui me paraît être peut-être quand même un changement, c'est que hier déjà, il y a eu la libération d'une jeune Palestinienne. Là, il doit y avoir aujourd'hui, normalement, la libération d'autres Palestiniennes en échange d'une cassette de Gilad Shalit. Je m'arrête un petit peu sur cette histoire parce que ça veut dire qu'il y a une négociation entre le Hamas et Israël directement. Donc là, je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. C'est ça qu'il faut signaler. Il ne faut pas signaler le risque.
Par l'Allemagne interposée.
Oui, oui, mais quand même, c'est aussi déjà quelque chose.
C'est une évolution.
Alors, on ne peut pas nier qu'il y a aujourd'hui une détente sur pas mal de sujets qui existent au Moyen-Orient.
Mais bon, dans le fond, il reste des problèmes qui n'avancent pas beaucoup, qui est la réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Visiblement, ça ne se passe pas quand même très très bien.
Ça reprend au Caire.
Ça reprend au Caire, mais du côté du Fatah, on n'est pas tout à fait très positif. Et de toute façon, en plus, bon, effectivement, les relations entre Israël et le président Abbas ne sont pas non plus très très bonnes.
On va changer de sphère, on va aller en Afghanistan, puisque la guerre là-bas, elle se poursuit. Et là encore, hein, des divergences entre les États-Unis et leurs alliés européens. Ces derniers, les Européens, refusent toujours d'envisager l'envoi de renforts, comme le réclame Washington, Samir Tweni.
Vous savez, le président Obama est en train d'étudier l'envoi de nouvelles troupes suite à la demande du général américain en chef en Afghanistan. Maintenant, il n'est pas facile d'envoyer des troupes juste comme ça. Et les Européens ont une autre opinion sur comment s'en sortir en Afghanistan. Ils souhaitent beaucoup plus faire du social que du militaire. Donc c'est peut-être deux points de vue qui sont en train aujourd'hui de se télescoper, effectivement.
Agnès Rotival, sur l'Afghanistan, rapidement.
Alors, sur l'Afghanistan, écoutez, la situation quand même est vraiment catastrophique pour la coalition, puisque si on regarde quand même sur le terrain, la situation est vraiment très mauvaise parce que les talibans ont vraiment progressé. On a un pouvoir à Kaboul dont on ne sait pas encore qui va l'exercer parce qu'on a un président qui n'est pas légitime du tout, et même la communauté internationale n'est pas d'accord entre elles pour savoir si on doit lui laisser la victoire ou non. Donc on est vraiment dans une situation délicate. Et le problème, c'est que c'est quand même grave, parce que c'est grave pour l'Afghanistan, mais c'est grave aussi, effectivement, pour la communauté internationale, parce qu'un échec en Afghanistan, c'est pas bon non plus pour la suite.
Gideon Kutz, sur l'Afghanistan.
Oui, écoutez, le problème est qu'aucune force étrangère n'a jamais gagné finalement aucune guerre en Afghanistan. Donc là, en plus, si des dissensions de ce type se révèlent, donc cela n'ajoute pas à l'optimisme qu'on pourra tenir la marche vers la démocratisation en Afghanistan. Donc de ce point de vue, il faut se mettre d'accord. Et si on continue la guerre, il faut la continuer par tous les moyens. Si on cherche d'autres moyens, donc il faut chercher d'autres moyens. Moi, personnellement, je doute si une activité sociale accrue va résoudre les problèmes historiques de l'Afghanistan, du pouvoir en Afghanistan.
Alors, il nous reste très peu de temps, 2 minutes à peine. Samir Tweni, il n'y a toujours pas d'accord sur la formation d'un gouvernement au Liban, 3 mois après les législatives. Pourquoi ça bloque et quelles peuvent être les conséquences d'une telle crise ?
Pourquoi ça bloque avant tout ? Ça bloque parce que, un, les Libanais ne s'entendent pas entre eux. Pourquoi ils ne s'entendent pas entre eux ? Parce qu'il y a des forces étrangères, il faut l'avouer, qui manipulent les Libanais. Maintenant, vu qu'il y a, je dirais, une fenêtre diplomatique qui s'est ouverte depuis quelques jours, nous pouvons espérer qu'un nouveau gouvernement au Liban va pouvoir être formé dans les 10 jours qui viennent. parce que les Syriens ont mis peut-être un peu de l'eau dans leur vin, les Iraniens aussi, les Saoudiens d'un autre côté. Donc aujourd'hui, les forces qui y ont une certaine puissance au Liban vont peut-être se mettre d'accord d'ici quelques jours pour pouvoir arriver à la formation d'un nouveau gouvernement.
Alors, avant de clore cette émission, j'aurais vous demander, Agnès Rotivel, un mot sur le Yémen. Il y a une guerre là-bas, un conflit qui fait rage, dont très peu de gens parlent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une situation d'autant plus inquiétante qu'elle se développe dans une région hautement stratégique.
Oui, c'est une région qui est stratégique, et puis c'est une question aussi, le Yémen, qui est un petit peu utilisé par les uns et par les autres. Alors, le gouvernement yéménite utilise ça en disant c'est Al-Qaïda qui est, en ce moment nous cause des problèmes et nous justifions nos bombardements contre le nord du Yémen. Il y a aussi une rébellion au sud maintenant, donc c'est vrai que le Yémen est un pays qui est déstabilisé. Ceci dit, c'est pas la première fois. Le Yémen, est une construction qui est un petit peu paradoxale aussi, mais il est vrai qu'au nord, semble-t-il, d'après moi, les contacts que j'ai eus avec des gens qui ont vécu et qui vivent et qui sont des spécialistes du Yémen, au nord, c'est pas forcément Al-Qaïda qui est impliqué dans la rébellion au nord. Maintenant, au sud, les situations sont peut-être un petit peu différentes, mais c'est vrai qu'on peut pas laisser une poche de déstabilisation comme ça, si proche d'une région quand même qui est déjà en ébullition.
Oui, le Yémen, dont on va certainement reparler dans les prochaines semaines dans Orient Presse, puisqu'il semble bien que la situation se détériore un peu plus chaque jour. Ainsi s'achève Orient Presse. Merci à vous trois, Agnès Rotivel du journal La Croix, Gideon Koutz de la télévision israélienne et Samir Tweni du quotidien Nahar. Merci à Jean Legrand pour la réalisation, à Richard Riffeneux pour la technique. Prochain rendez-vous avec Orient Presse samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI.